Religion du Monde, Geneviève Delrue.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dimanche dernier, en tout début du mois du Ramadan, nous nous demandions si ce Ramadan confiné, avec des mosquées fermées et un dîner le soir en tout petit comité, allait être un Ramadan confisqué. Pour répondre à cette question, Clémentine Métainier, journaliste indépendante à Grenoble, a interrogé pour nous un panel large de musulmans, de la mère de famille nombreuse, voire très nombreuse, à l'homme seul. Bonjour Clémentine.
Bonjour Geneviève, bonjour à tous.
Dans quel quartier de Grenoble habitent les musulmans que vous avez interrogés au téléphone?
Un peu partout, dans Grenoble, certains habitent au centre-ville, d'autres dans des quartiers populaires comme la Villeneuve des Chirolles, Mistral, et donc bien sûr, comme tout le monde, ils ne peuvent pas se rassembler, notamment dans les grandes mosquées de la ville. Ils restent chez eux.
Alors Clémentine, on va ouvrir ce reportage avec Sana, qui n'a pas moins de 8 enfants, de 3 mois à 15 ans. Donc pas d'école en ce moment, ça veut dire des enfants toute la journée à la maison, ça veut dire aussi pas de cantine. C'est donc un Ramadan pour cette mère de famille très nombreuse, très particulier.
Oui, et effectivement, pas du tout facile pour Sana cette année, qui se retrouve 24 heures sur 24 avec ses 8 enfants. Son mari a néanmoins repris son travail dans le bâtiment. Et Sana sort très peu de chez elle, et la maladie lui fait très peur, m'a-t-elle dit à plusieurs reprises, donc elle ne sort pas. Donc cette année, c'est un Ramadan replié sur sa propre famille, dont 3 des 8 enfants expérimentent le Ramadan.
Cette année, à la maison, quand on bouge pas. Pour les enfants, c'est pas facile de pas voir leurs grands-parents. Ils comprennent pas. Donc là, ils ont vu à la télé, oui, déconfinement le 11. Le 11, c'est bon, on peut aller chez papy, mamie, s'il te plaît, maman. Non, on peut pas. On attend de voir parce que c'est dangereux. Je leur ai expliqué, ils comprennent, mais bon, c'est pas facile.
Est-ce que vous diriez en fait que le fait de vivre confiné pendant ce Ramadan, ça vous confisque le Ramadan? Vous allez le vivre vraiment plus difficilement ou vous ne diriez pas ça?
Plus difficilement, la gestion des enfants. Quand il n'y a pas les enfants, j'ai le temps de faire plein de choses, de prier tranquillement. Là, je ne peux pas le faire tranquillement, ça c'est clair. Avec les enfants, 24 heures sur 24 à la maison, c'est vraiment pas facile, il faut les occuper, donc voilà. Mais on fait le jeûne, comme d'habitude, quoi. Ça, rien n'a changé. Bon, on communique beaucoup avec la famille, avec les réseaux sociaux, donc on peut se voir et tout, c'est triste, c'est moins sympa, mais on n'a pas le choix. Même l'Aïd, là, j'arrête pas de me poser des questions, je me dis, mais comment ça va se passer, quoi? Est-ce qu'on va sortir? Est-ce que, d'habitude, on leur achète des vêtements, des beaux-habits, puis ils vont voir tout le monde? On fait la fête, et là, je sais pas comment ça va se passer,
Ça vous rajoute un repas aussi le midi que d'ordinaire vous ne faites pas parce que vos enfants sont à l'école?
Oui. Oui. Ça m'a ajouté parce que moi, ils étaient tout le temps inscrits à la cantine. Donc c'était beaucoup mieux et moins cher pour moi de les mettre à la cantine. Donc du coup, j'ai jamais cuisiné autant de toute ma vie, quoi. Je n'arrête pas.
Alors Clémentine, il y a des situations tout à fait différentes. Celle de Nébia, qui élève seule ses 2 enfants, une fille de 17 ans et un fils de 22 ans, et qui semble vivre un Ramadan manifestement comme elle ne l'a jamais vécu. Pour elle, le confinement a ses vertus, Clémentine.
Oui, Nébia est très enthousiaste et elle voulait témoigner de cela. Alors elle qui en général travaille beaucoup, parce qu'elle est coordinatrice dans un espace de vie sociale, elle est très mobilisée pour les autres. Et donc ce Ramadan en confinement va lui permettre de s'arrêter enfin et de redonner du sens à la solidarité.
Plutôt dans une ambiance plutôt tranquille, apaisée, même si à ce confinement, parce que on prend notre temps pour cuisiner, mais on prend notre temps aussi pour manger. Moi, je suis quelqu'un qui est très active et qui passe beaucoup de temps au boulot. Moi, je mange tous les soirs depuis quelques années, de nombreuses années, 6-7 ans, dans ma chambre. En fait, je prends un plateau repas et je mange dans ma chambre parce que j'ai toujours des trucs à remplir, tout ça. Et ça fait plusieurs ramadans que mes gamins me disent tu manges même pas avec nous, même pas pour le ramadan. Et moi, je dis tout le temps, mais non, je peux pas, j'ai pas le temps. Et là, depuis le premier jour, j'ai mangé avec eux à table. Ça me fait trop bizarre, mais c'est trop bien, en fait. Parce que du coup, on discute, on n'a même pas les téléphones parce qu'on, de toute façon, on les a toute la journée. Donc, du coup, on s'en passe. Et là, j'ai mangé avec mes enfants. Enfin, j'en ai des frissons, en fait, rien que de le dire. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne ambiance paisible, on va dire.
d'être voilà, confinée pendant ce ramadan, qu'est-ce que vous allez faire de différent ?
Alors, ce que je vais faire de différent, c'est que je vais prendre mon temps, en fait. Je vais plus être... je vais plus... Enfin, quelque part, même de toute façon, ce virus-là, c'est un peu de se dire qu'on n'est pas immortel et que bah il faut profiter de la vie maintenant, en fait. Il faut prendre son temps. Et puis ça l'empêche pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut quand même partager avec d'autres des plats, même si bon, il y a ces règles de confinement, mais on peut quand même. Dernièrement, on a des personnes qui sont venues habiter, enfin habiter entre guillemets, qui sont venues occuper des appartements qui étaient vides dans notre immeuble. Ce sont des familles syriennes. Du coup, il y a 3 familles syriennes dans l'immeuble. Donc, ils galèrent un peu parce qu'ils sont dans un appartement qui est complètement vide. Alors, ils ont réussi à avoir des petites plaques, des choses comme ça pour pouvoir cuisiner, mais ça reste quand même très précaire. Et du coup, j'aurais déjà donné tous les soirs soit du pain que j'ai fait, soit des gâteaux. Ils sont plutôt contents et ça permet de discuter un petit peu et de se faire connaître un peu nos plats, même si on ne prend pas beaucoup de temps pour... voilà, c'est assez bref l'échange, mais en tout cas, voilà, ça permet de pouvoir échanger. Et là, du coup, c'est bien parce que c'est vraiment l'esprit du ramadan de donner à des gens qui n'en ont pas. Moi, à la fin du ramadan, quand on doit donner la zakat, on ne sait jamais trop à qui donner parce qu'en vrai, on n'a pas trop de proches on ne connaît pas vraiment des gens qui n'ont aucun revenu. Et là, pour le coup, c'est bien parce qu'ils sont là et qu'on pourra leur donner.
Clémentine Métainier, vous avez eu aussi un échange téléphonique avec Hassan Amgar, qui est un médiateur interculturel. Et son travail actuellement est précisément d'expliquer les mesures de confinement à la frange âgée de la population maghrébine de Grenoble.
Oui, Hassan Amgar travaille au sein de l'association grenobloise Interface Migrants. Et en ces temps confinés, il va surtout à la rencontre d'hommes maghrébins qui ne sont plus tout jeunes et qui se réunissent quand bien même dans des parcs à défaut de mosquées.
Mais l'immense majorité de ces maghrébins se retrouvent surtout dans les mosquées. C'est un lieu où ils peuvent rester à longueur de journée. Pendant la prière, mais aussi en dehors de prière, ils peuvent rester. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le confinement et les mesures barrières, eh bien, les mosquées sont fermées, les salles de prière sont fermées. Et ça, c'est vraiment le grand drame pour ces maghrébins. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se retrouvent dehors. Et pourtant, c'est interdit. C'est ce côté collectif, aussi bien prière, parce que les prières, la nuit, on les fait en groupe dans les mosquées, mais aussi ce côté festif. La nuit, on se retrouve à manger ensemble, s'inviter entre les amis et la famille, etc. C'est un peu comme Noël pour les chrétiens, sauf que c'est un Noël qui dure un mois. Voilà, et ça manque terriblement. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec 3 maghrébins que j'ai retrouvés sur une place, et puis il y a un d'eux qui a dit « Vous avez vu les images hier à la télé ?» Et l'autre lui dit « Qu'est-ce que tu as vu toi ?» Il a dit « J'ai vu la Mecque. » Oui, alors, elle était désert. C'est le désert. C'est la première fois de ma vie que je vois la Mecque, c'est-à-dire le Kaaba, ce temple autour duquel tournent les pèlerins pendant le pèlerinage, ou n'importe quel pèlerin, quand il arrive avant de rentrer donc dans ce sanctuaire, eh bien, il fait le tour de cet édifice cubique qu'on appelle la Kaaba, revêtu d'un tissu noir, 7 fois. Donc le type a dit, d'habitude, c'est noir du monde. Et là, il n'y a personne. Je pense que ce coronavirus, il est venu nous annoncer la fin des temps. C'est le signe de la fin des temps. Il faut vous préparer, mes amis. Ça va être la fin. Voilà. C'est l'Apocalypse. Elle a dit, jamais je n'imaginais que ce lieu-là, un jour, devienne désert. S'il devient désert, c'est qu'il n'y aura plus d'êtres humains sur Terre. Puis les autres, l'écouter religieusement. Voilà.
Qu'est-ce que vous lui avez répondu pour le rassurer ?
Moi, quand je vais voir effectivement ces gens qui sont assis sur des bancs dans ces places, ce n'est pas effectivement pour faire des discours, parce que maintenant on est en confinement, c'est surtout pour les convaincre pour rentrer chez eux. Par contre, je leur ai dit tous, après le confinement, venez me voir dans mon bureau et on pourra discuter de tout ça. Je leur ai dit effectivement que ça fait partie de ma mission. Et d'ailleurs, certains le savent. Ils m'ont dit, oui, on viendra te voir parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et d'ailleurs, il paraît que ce sont les Américains qui ont créé ce virus. Ce sont eux qui nous ont envoyé ça.
Alors Clémentine, il y a la question des personnes qui vivent seules, on pense aux étudiants, les réfugiés aussi politiques, et vous avez reçu le témoignage d'Omar, qui est un réfugié palestinien.
Oui, Omar habite à Grenoble depuis 8 ans, il est actuellement sans emploi et depuis le début du confinement, il respecte à la règle, il sort peu et il ne fera pas d'exception pendant ce ramadan.
En fait, cette année, le mois de ramadan est complètement spécial et particulier, un ramadan triste. Je suis confiné chez moi et c'est la première fois de ma vie que je fais le ramadan tout seul. Pendant les années précédentes, je le faisais avec des amis. Et cette année, c'est impossible à cause du confinement.
Comment se passent vos journées? Donc à quelle heure vous couchez-vous? À quelle heure vous vous levez? À quelle heure vous faites vos prières?
D'habitude, en fait, je dors à peu près à 1h du matin. Après, je me réveille vers 4h30 pour manger un peu. Et je reste jusqu'à 5h15 pour faire la prière. Et après, je dors jusqu'à 11h. Parfois, je fais la grâce matinée jusqu'à midi, ça dépend. Et après, pendant la journée, franchement, je pense que ce ramadan est plus spirituel pour moi. Parce que cet isolement m'a permis de me recentrer sur moi-même et sur l'essentiel pour trouver des moyens de m'améliorer et de me rapprocher de Dieu. C'est-à-dire, j'ai un peu plus de temps pour faire toutes les prières et lire le Coran avec méditation. Personnellement, je pense que ce ramadan est plus spirituel pour moi.
Alors, Clémentine, des entorses à la règle du confinement, ça existe à Grenoble. Mahmoud Hissène le confie. Mahmoud Hissène est un réfugié centrafricain. Clairement, il le dit, le confinement, c'est pas dans la culture africaine.
Oui, alors il vit depuis quelques années à Grenoble. C'est une ville qu'il connaît bien. Lui, il est diplômé dans l'action sociale et politique de la ville et il n'a pas l'habitude de rester seul. Mahmoud Hissène a besoin d'être en interaction avec les autres, quoi qu'il en soit.
Avant, on se retrouve pendant la rupture à la mosquée. On fait la rupture ensemble, on croise beaucoup des amis, toute la diaspora africaine, ouais, que ce soit du côté des Maghreb ou d'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Et voilà quoi, on cause, on passe pas mal du temps ensemble et tout. Et cette fois-ci, c'est un peu différent parce qu'on est confiné, donc... On partage ces ramadans avec certains amis à l'immeuble, voilà quoi, avec un nombre de dizaines et tout, et voilà.
Vous voyez quand même des amis, vous vous rassemblez quand même le soir pour partager la rupture du jeûne, malgré l'interdiction de se rassembler?
Oui, pendant l'heure de la rupture, chacun prépare sa nourriture chez lui, et après on se retrouve chez un ami. Dans l'immeuble, chez un ami, chacun amène sa nourriture et voilà, on coupe le ramadan ensemble et après on fait la prière et voilà quoi. Oui, bien sûr, c'est il y a l'interdiction des rassemblements et tout et pour être franc, c'est que entre nous Africains, il y a rien qui change, il y a rien qui change. On fait la bise, on se salue, on serre la main et tout quoi. Même si tu connais pas la personne.
Et justement, pourquoi vous dites que rien ne change, que finalement, qu'il y ait confinement ou pas, vous continuez à vous retrouver? C'est parce que vous n'êtes pas forcément d'accord avec le fait d'être confiné ou c'est parce que, principalement culturel, qu'on ne peut pas passer le ramadan seul?
Oui, non, c'est pas ça. On est d'accord pour le confinement, donc ça dépend des santé et tout, quoi. On est d'accord pour le confinement, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a une raison. Comme vous venez de le dire, la raison est culturelle et en plus, elle est religieuse aussi, quoi. En tant que croyant, vous voyez, on dit ce qui est écrit est écrit, quoi. Quoi qu'il en soit, tu n'échapperas jamais à ce que le destin t'a écrit, quoi. Donc, voilà, c'est ça la différence, quoi, avec les autres. Quand je dis les autres, c'est les personnes blanches, quoi. Et ils se basent sur le côté scientifique. Ils croient les côtés scientifiques et c'est tout. Et côté scientifique et politique, sans faire de jugement. Mais quand j'ai dit nous, Africains, voilà, il y a la culture qui est là. Tu ne peux pas fuir une personne que tu vis avec elle depuis longtemps. Tu ne peux pas la fuir à cause d'une maladie invisible que tu ne connais rien dont. Tu ne peux pas la fuir à cause de ça, quoi. Donc, quand j'ai dit rien n'échange, donc voilà, il y a toujours cette solidarité qui est présente. Et vraiment, j'en ai très fier de cette solidarité. Et ça m'a un peu ouvert les yeux et ça m'a permis aussi de réfléchir à beaucoup de choses, quoi.
Est-ce que cette année, le fait de ne pas travailler, justement, donc d'être à la maison toute la journée, va vous permettre d'être plus que d'habitude dans la prière ou dans la spiritualité? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez mettre en place pendant ce mois du Ramadan ou ça ne va pas changer des autres années?
Oui, concernant la prière et la spiritualité, rien ne change, quoi. On passe du temps avec des amis ensemble jusqu'à 6h du matin ou soit 5h du matin. Après, on fait la prière. Après la prière, on lit les Corans. Après les Corans, on demande à Dieu de nous endiguer cette maladie qui fait ravage dans le monde entier. On demande à Dieu à ce que tous les malades du monde entier soient guéris. Voilà quoi, on fait la prière. Bon, on ne demande pas uniquement pour les musulmans, on demande pour tout le monde, que ce soit non-musulmans, chrétiens, personnes qui n'y croient pas. Donc voilà, on demande vraiment à Dieu à tous et à toutes, quoi, sans distinction des religions ni des nationalités. Du pays, quoi. On garde le même rythme de la prière. Ce qui change un peu dans ça, c'est qu'on prie Dieu beaucoup contre cette maladie, quoi, des coronavirus.
Clémentine Métainier, le tissu associatif, là, Grenoble est manifestement riche. Vous avez rencontré l'association Musulmans Unis de la mosquée de Tesser et son président, Ilyes Arbouche.
Oui, c'est une association qui est très dynamique, hein, d'un quartier populaire de Grenoble qui s'appelle Tesser. Et cette association a dû s'adapter et elle a dû faire preuve d'imagination depuis le confinement, extrêmement sollicité depuis le début du Ramadan.
Alors, on a perdu un petit peu le contact, hein, un petit peu moins de temps d'échange. Typiquement, avant, on proposait aussi un petit café, un croissant, par exemple, quand on n'était pas en période de Ramadan. Là, on enlève ces choses-là. On est plus sur un système, en fin de compte, de drive. Hein. Les personnes, entre guillemets, ont passé une commande puisqu'on est au courant de ce qu'ils veulent. Et on charge nous-mêmes leur caddie et puis ils partent avec. Donc, d'habitude, nous, on distribue que des caisses de nourriture non cuisinées pour que les gens, enfin, souvent un public de famille, puissent cuisiner tranquillement. Là, on est plus sur une activité nouvelle. On va distribuer des repas chauds. Voilà. Donc, en partenariat avec une autre association qui s'appelle la Chorba pour tous, qui est aussi à côté de chez nous, ce sont des dames qui cuisinent et puis nous, on va aller livrer des repas à des étudiants de manière à ce que chaque étudiant, tous les soirs, puisse manger un petit peu des dattes, du pain, une soupe, un repas chaud et avoir en plus de cela quelques fruits pour le lendemain matin pour préparer la journée de jeûne.
Est-ce que le public que vous aidez en temps normal est devenu plus important ?
Alors effectivement, notre public il s'est diversifié dans un premier temps. Avant, on avait vraiment des personnes en très grande précarité. Et là, aujourd'hui, on a pas mal de personnes qui n'étaient pas forcément dans le besoin selon nos critères, qui aujourd'hui demandent notre aide puisqu'ils ont perdu un emploi, puisqu'ils sont à la maison, ou ils ont moins de moyens en cette période. Par rapport à cette demande qui a quasiment augmenté de 75%, eh ben, on tape un petit peu plus dans nos réserves et on prépare des colis, un peu plus d'urgence, un peu moins fournis que d'habitude, mais on essaie de fournir plus de monde de cette manière-là.
Chaque année, vous organisez notamment la chorba pour tous, la soupe pour tous, mais il a fallu que vous inventiez d'autres choses. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, notamment via Facebook. Vous proposez des recettes pendant le Ramadan, des quiz pour les enfants et les adultes, ou encore des lectures du Coran. Et vous avez également lancé une cagnotte en ligne pour récolter des fonds. Vous avez récolté 4 500 € en 24 heures. Est-ce qu'on peut dire qu'Internet, c'est un vrai allié dans cette crise ?
Alors, on a toujours essayé d'être actif hein, pour jouer la carte de la transparence et puis montrer un petit peu nos activités. Mais là, il est d'autant plus important que les personnes sont chez elles. Donc, il est aussi important de les fédérer de cette manière-là, de leur montrer que nous, on bouge toujours, qu'il y a toujours des personnes qui sont dans le besoin, des personnes qui autrefois étaient peut-être visibles parce que lorsqu'on sort, on les voit, ces personnes-là. Par contre, en restant chez soi, on ne les voit plus. L'idée, c'est de continuer de communiquer pour bien dire que la misère existe toujours, même en cette période, et qu'il faut continuer de nous aider. d'où l'intérêt des réseaux sociaux qui est accru en cette période.
Combien de personnes participent à toutes vos actions au sein de l'association ?
On a diminué volontairement nos effectifs de bénévoles, histoire d'éviter aussi de notre côté une propagation du virus. Du coup, on a des bénévoles, je dirais, aguerris, qui respectent davantage les règles. On est sur un noyau dur de 20 personnes, donc forcément on est un peu plus fatigué qu'en temps normal, mais c'est des décisions qu'on a prises pour éviter la propagation supplémentaire du virus aussi parmi nos membres.
Qu'en est-il de votre partenariat avec la maison d'arrêt de Grenoble-Vars où vous apportez des repas chauds pour la rupture du jeûne aux détenus qui font le ramadan depuis l'année dernière ?
Alors, avec la maison d'arrêt, on a eu l'occasion l'année dernière de faire deux distributions. Pour le moment, il y a de fortes chances qu'on soit à zéro. La maison d'arrêt nous a demandé d'attendre le 11 mai. Mais malheureusement, avec le déconfinement frileux qui se profile et ce qui est normal, la maison d'arrêt a de fortes chances de nous donner une réponse négative pour cette année. Donc on en est bien triste, puisqu'il y a pas mal de personnes qui attendent avec impatience cette aide cette année de notre côté également.
Est-ce que vous diriez que ce ramadan confiné est un ramadan confisqué cette année ?
Alors, ramadan confisqué serait peut-être un grand mot. On a toujours le côté spirituel qui est le plus important. Par contre, on a une autre donnée essentielle du ramadan qui est le partage, qui forcément est un petit peu amputé cette année. Donc, confisqué est un grand mot, mais presque confisqué, on n'en est pas loin quand même.
Alors Clémentine, si les causes du confinement sont bien comprises et que dans son ensemble le confinement est bien respecté, ce ramadan 2020 engendre bien des frustrations, mais aussi de belles initiatives. Et je vous remercie pour ce reportage. Merci Clémentine.
Merci.
Salam alaikum. Confinement. Est-ce que j'ai une tronche de confiné ? Ouais, bon, ça va. Hein, je sais, mais je suis pas le seul. Hein. Et pour moi, comme pour beaucoup visiblement, le ramadan, comme les prières et tout ce qui touche de près ou de loin aux pratiques religieuses, tout ça va également se dérouler dans le confinement. Certains y voient un drame, d'autres une aubaine, au contraire. Qu'en est-il ? Bah, j'ai envie de vous dire que chacun voit midi à sa porte, hein. Moi, en tout cas, ce que j'en dis, hein, c'est que la baisse conséquente de la nuisance sonore que produisait le trop-plein de blabla prétendument religieux, ça me fait un bien fou.
L'humoriste Farid Abdelkrim, de confession musulmane, n'est pas en chômage partiel. Au début du ramadan, il a posté sur le web une nouvelle capsule d'un musulman qui vous veut du bien sur le thème du ramadan confiné. Et plutôt que de gémir sur la fermeture des mosquées, il vante les vertus du ramadan chez soi, le ramadan atome, qui pour l'humoriste à la gouaille provocatrice et bienveillante, appelle un ramadan plus spirituel où le fidèle est en hotline avec Dieu sans intermédiaire.
T'en parler de religion, c'est fou tout de même. Et dans ce flot interminable de blabla, personne ne vous dira que ça empêche de penser par soi-même. Parce que pour penser par soi-même, hein, t'as pas le choix. Faut du silence. Du silence et du temps à soi. Et ben là, force est de constater qu'on est royalement servi. En tout cas, pour les musulmans, les pratiquants, ils vont devoir, ou pouvoir, ou vouloir, ça dépend où chacun se situe, se passer des services de toute la clique d'intermédiaires préposés à la distribution du prêt à croire, du prêt à penser et du prêt à pratiquer. Ceux qui vous disent tout comment faut faire pour croire, être, devenir, mourir, ressusciter. Eh bien là, on est parti, pour un temps en tout cas, dans la perspective de rendre réelle, effective, cette idée dont nombre de musulmans s'enorgueillissent, selon laquelle il n'y aurait pas d'intermédiaire en islam, pas de clergé, rien sinon la créature et son créateur. Mon œil, parce que là, ça en fait du monde, hein. Mais du monde qui va être mis sur la touche. Les savants, les chouyours, les imams, les prédicateurs, les coachs. Bon, pour ce qui est des pères, des maris et des frères, quand on est une femme, c'est pas gagné. Mais on devrait quand même y voir plus clair. Plus clair pour inventer ou réinventer son rapport avec l'éternel, avec les seuls moyens du bord, de son propre bord, et en toute autonomie. Il y a l'individu, sa connaissance et sa pratique pour cheminer vers Dieu. C'est cool, non ? Cool ? Pas pour tout le monde, hein. Bah, les intermédiaires qui se retrouvent au chômage partiel, bah, c'est pour la joie.
Bonjour Farid Abdelkrim.
Bonjour.
Comme je le disais, vous êtes confiné hein, dans votre ville de Nantes, mais vous n'êtes pas en chômage partiel, vous, et vous continuez donc de poster sur la toile vos vidéos d'un musulman qui vous veut du bien. Alors, déjà pour ce ramadan, vous lui dites à ce musulman, eh bien, apprends à prier, apprends à méditer seul, à être autonome en fait.
En fait, oui, il s'agit de revenir à un fondamental qui est que, en réalité, le croyant, le fidèle, le cheminant doit exercer sa pratique religieuse, l'essentiel de sa pratique religieuse seul. Sauf que depuis quelque temps, et notamment avec l'apparition et des réseaux sociaux et de tout un tas de choses, on a fait en sorte de penser, de croire à la place du croyant et de lui enlever toute cette autonomie qui pour moi est fondamentale pour qui désire véritablement accéder à la transcendance. Donc dans ce mal qui nous touche tous, il y a peut-être un bien à ce niveau-là, c'est-à-dire ramener le fidèle à cette condition essentielle qui fait qu'en réalité, on ne connaît, on ne découvre, on ne cherche Dieu que seul en réalité, à l'abri du bruit, à l'abri du mouvement, etc. etc. Donc j'avais envie effectivement de rappeler cet aspect assez essentiel des choses et donc voilà pourquoi j'ai fait cette capsule en période de confinement.
Oui, pour vous effectivement, ce ramadan confiné est une opportunité. Vous critiquez assez sévèrement hein, les réseaux sociaux dans une de vos capsules où vous dites voilà, il y a beaucoup trop de paroles là encore sur les réseaux sociaux.
Ah oui, tout à fait. Moi je pense qu'aujourd'hui nous avons posé un voile sur... En tout cas, c'est le croyant qui parle sur Dieu lui-même avec toutes ses paroles et tous ses enseignements, entre guillemets, qui ont mis ces derniers temps en avant, en tout cas dans la tradition musulmane, la norme, un excès de normes. Et donc, tout le monde a quelque chose à nous dire sur tout, sur absolument tout, et les moindres détails. On sait que le diable, c'est en partie là qu'il se cache. Ici, comprenez par mon propos, le fait qu'on va s'y perdre et on va perdre de vue l'objectif qui est Dieu lui-même. Et je le dis dans cette capsule, les musulmans aiment à rappeler que dans leur religion, il n'y a pas de clergé. Ça, c'est en théorie, puisque dans la pratique, tout le monde a envie de vous guider et j'ai même envie de dire, envie de vous mener par le bout du nez. Donc, il s'agit pour moi, effectivement, de dire à ces gens-là... Ça va nous faire du bien de ne pas vous entendre, même si les réseaux sociaux continuent à tourner, mais je pense qu'on est beaucoup moins dans ce bruit et cette agitation qui n'est pas propice à la méditation, au cheminement et à la réflexion indispensable dans une quête qui est celle de la transcendance.
Farid Abdelkrim, sur le sens hein, du coronavirus, vous avez posté au début hein, du confinement une vidéo qui revient donc sur les explications données au début par certains musulmans et comme autrefois effectivement dans le monde et aujourd'hui encore, hein, plutôt que de regarder le microscope, certains se tournent vers le ciel et au début des musulmans ont parlé de châtiment, puis ensuite d'épreuve. On va écouter cette capsule et vous la commenterez après.
Cette épreuve, car c'en est une, et elle ne fait pas de distinction, peut-être que les musulmans pourraient en tirer quelques leçons. Observez comment le virus qui, après avoir été qualifié de punition, puis d'épreuve, voulue par Allah, comment ce virus a éradiqué certains des rites islamiques, les uns après les autres, et pas des moindres. Comment, avec la permission du Très-Haut, plus de tawaf autour de la Kaaba à la Mecque, terminer les cinq prières collectives à la mosquée. Idem pour l'office du vendredi, El Jumu'a, et pas qu'en France. Fini les rites funéraires pour les morts musulmans atteints du corona. Qu'est-ce que cette épreuve vous inspire à vous, les musulmans? Dieu cherche-t-il à attirer notre attention? Mais sur quoi?
Alors, on l'entend, hein, Farid Abdelkrim, il y a les rites hein, qui sont totalement bousculés avec ce ramadan confiné. Mais on revient sur voilà sur ces rumeurs au début, ou en tous les cas sur ces allégations hein, d'un châtiment de Dieu. Et vous, vous avez voulu clairement dire dans cette capsule, eh bien, écoutez, un châtiment de Dieu, non, puisque au début, si c'était les Chinois, eh bien maintenant, tout le monde est touché, y compris les musulmans.
Bien oui, ce type de propos nous renseigne sur la manière dont les individus conçoivent Dieu. Donc on a ici une approche théologique qui est assez problématique, puisque nous aurions un Dieu qui décide comme ça, de manière tout à fait arbitraire, sur l'échelle de l'histoire et dans le temps, de frapper les êtres humains parce qu'ils se seraient montrés coupables d'exactions, en tout cas de péchés absolument inqualifiables et insupportables pour Dieu. Sauf que ceux qui se sont permis de dire ces choses-là ont évoqué la fornication, l'adultère et un certain nombre de turpitudes. Mais il me semble que si on jette un œil sur l'histoire, il a toujours existé des hommes prétendument obéissant aux lois divines et d'autres qui lui désobéissent. Et ce n'est pas pour autant que Dieu s'est mis à frapper à chaque fois qu'il a été désobéi. Mais le plus étrange, c'est qu'effectivement, tant que ça ne nous arrive pas à nous, musulmans, on était heureux de pouvoir dire « Regardez les Chinois avec ce qu'ils font aux Ouïghours, eh bien Dieu a décidé de les punir. » Et puis, ça s'est généralisé, des musulmans ont été touchés par le virus et là, comme par enchantement, le discours change et on nous parle finalement des preuves dans lesquelles nous sommes, nous musulmans, incorporés. Ça fait de Dieu un Dieu qui change, un Dieu lunatique, un Dieu qui n'est pas du tout clair dans sa démarche. Et je pense que ce que je disais précédemment, le fait qu'il y a beaucoup trop de blabla, oui, il y a non seulement trop de blabla, mais on en perd son latin ou son arabe ou ce qu'on veut quand on a affaire à des gens qui nous parlent comme ça. Alors qu'en réalité, je pense qu'il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus humain, de beaucoup plus terrestre, de beaucoup plus horizontal. Ça nous arrive, c'est là, c'est présent. Que peut-on faire pour essayer d'éviter le pire, d'aller vers la catastrophe? Et comment peut-on avancer de manière solidaire pour réussir à justement dépasser cette épreuve? Voilà donc le sens de cette capsule.
Alors, un peu de poésie avec vous, grâce à vous, Farid Abdelkrim. C'est une de vos capsules préférées, le poème d'Aragon, La Rose et le Réséda, que vous avez choisi pour remercier les soldats du coronavirus, les médecins, infirmiers, infirmières, aides-soignantes au front, mais aussi celles et ceux qui nous ont nourris, approvisionnés pendant cette période. Alors, avant d'écouter un extrait de La Rose et le Réséda, quelques mots, Farid Abdelkrim, sur ce choix.
Mais écoutez, ce choix m'a été inspiré par un ami, il s'appelle Thierry Maillard, qui n'est pas croyant, il est athée, et ce poème lui est revenu en mémoire au moment de ce qui nous arrive, cette épreuve du corona. Effectivement, on a dans ce poème de Louis Aragon quelque chose qui nous appelle à aplanir les divergences, à nous retrouver, parce qu'on est tous en réalité censé résister, faire preuve de résistance face à ce qui nous arrive. Et je trouve que ce poème va vraiment, vraiment dans ce sens et je pense que c'est une manière de dire bravo à toutes celles et tous ceux qui effectivement sont en première ligne et puis toutes celles et tous ceux qui derrière bien jouent le jeu du confinement, sont disciplinés. On est embarqués dans la même galère, si je puis dire, et embarqués ainsi. On a oublié qu'un tel était croyant, l'autre pas, celui-là juif, l'autre chrétien, celui-là de droite, l'autre de gauche. On s'est dit qu'on avait vraiment quelque chose à mener ensemble et peut-être bien qu'au sortir de cette épreuve, quelque chose de bon, de meilleur, jaillira dans les relations que nous pouvons avoir les uns avec les autres. En tout cas, c'est ce que je souhaite et c'est ce que j'espère de tout cœur.
Merci Farid Abdelkrim. On se quitte sur la fin de La Rose et le Réséda. Merci.
Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne trompa, et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Il coule, il se mêle à la terre qu'il aima, pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, l'un court et l'autre a des ailes. De Bretagne ou du Jura, et framboise ou mirabelle, le grillon rechantera. Dites flûte au violoncelle, le double amour qui brûla, l'alouette et l'hirondelle, la rose. Et le Réséda.
Louis Aragon, lu par Farid Abdelkrim.
Religion du monde, Geneviève Delru.
Allah au féminin, c'est le titre audacieux du dernier livre publié chez Albin Michel d'Éric Geoffroy, spécialiste du soufisme, professeur d'islamologie à l'Université de Strasbourg et président de l'association Conscience Soufie qu'il a cofondée en 2016. Le soufisme, courant mystique de l'islam avec la recherche de la voie pour accéder à Dieu à travers les confréries, l'initiation des maîtres, la vie exemplaire de saints, la poésie, le chant et parfois la danse, cette branche de l'islam qui s'appuie sur le Coran exalte la femme en tant qu'éternel féminin et matrice de l'humanité et lui accorde une place que l'orthodoxie islamique ne lui a pas donnée. Alors, pourquoi cette singularité du soufisme à l'égard des femmes et que peut apporter cette vision de la femme dans le soufisme aux sociétés musulmanes? C'est la question que nous posons à Éric Geoffroy en ligne de Strasbourg où il vit, enseigne et écrit aussi. Bonjour Éric Geoffroy.
Bonjour.
Alors, ce livre sur les femmes, du soufisme et dans le soufisme, porte ce titre, je le disais, audacieux, Allah au féminin. Alors après avoir bataillé, hein, vous l'avez écrit, bien vous avez obtempéré auprès de votre éditeur en vous disant qu'il était légitime ce titre, effectivement, qu'après tout, le grand maître soufi du XIIIe siècle, Imd Arabi, s'adressait à Dieu au féminin. Alors finalement, ce titre, vous l'avez validé.
Oui, tout à fait, parce que je crois que de deux points de vue, en fait, il est valable. Le terme Allah s'accorde au masculin, mais c'est un neutre plutôt, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et il y a des signes, par exemple, dans le Coran, puisque chaque sourate s'ouvre par la formule « Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim », eh bien la racine de la miséricorde, « Rahim », vient du sémitique, et ce n'est autre que la matrice féminine, donc l'utérus. Il y a d'autres indices comme ça, aussi des paroles du prophète, qui mettent en évidence le caractère maternel, maternant de Dieu, donc féminin. Et aussi, Allah au féminin, c'est comment les femmes ont vécu, ont perçu ce Dieu et comment elles se le sont, non pas accaparées évidemment, mais comment elles l'ont intériorisé. Alors ce que je voudrais dire tout de suite à votre question aussi, évidemment, c'est que tous les milieux soufis n'ont pas cette ouverture, mais c'est vrai que d'emblée quand même, il y a dans le soufisme généralement un sens, une perception de l'amour avec un grand A, enfin l'amour en tant qu'énergie du cosmos et de la création et de la beauté, enseignements qui sont et dans le Coran et dans la parole du prophète, mais que les soufis ont mis vraiment donc en exergue. Mais encore une fois, il y a des milieux soufis qui sont parfois même intégristes, vous voyez ce que je veux dire. Évidemment, tous les milieux soufis, tous les milieux confrériques ne sont pas à la même hauteur que Ibn Arabi, un mort en 1240, Rumi, très connu aussi, 1273, ou d'autres.
Oui, d'ailleurs, Hassan al-Banna, hein, le fondateur des Frères musulmans, était soufi.
Tout à fait, était issu du soufisme. Bon, alors, après, c'est une question de contexte, vous voyez, parce que Hassan al-Banna, c'est le début du XXe siècle, c'est l'Égypte qui est occupée par les Anglais, donc, vous, peuple musulman, réveillez-vous. Vous voyez, ce que j'ai dit. Donc, il faut toujours voir aussi les contextes divers et variés. Oui, et pardon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans des milieux musulmans autres que soufis, et j'en cite un petit peu, il y avait aussi cette grande ouverture, notamment dans l'Espagne musulmane. Hein, il y avait des savants comme Ibn Hazm, qui est mort vers 1060, et qui va très loin dans cet amour et du féminin et de la femme.
Ce que vous décrivez très bien dans votre livre et de façon savante, hein, Éric Geoffroy, c'est que pendant les trois siècles qui ont suivi la révélation, eh bien, les femmes ont une place, ont une vraie place. Elles dirigent la prière, par exemple. Elles sont érudites. Et cela, effectivement, oui. Ça s'est un petit peu enfoui, j'allais dire. Il y a une forme d'amnésie de cette période. Pourquoi ?
Tout à fait. Vous savez, quand on parle un peu de musulmans actuels, on voit qu'il y a une sorte de lavage de cerveau depuis au moins l'apparition du wahhabisme, donc saoudien. C'est bon, en fait, depuis la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Donc, plus de deux siècles de lavage de cerveau, si je puis dire, et d'amnésie, en effet, et qui fait que les gens, ne lisant plus beaucoup, ils ne vont pas lire les sources. Or, les sources islamiques anciennes vous disent, voilà, il y avait des femmes enturbanées qui étaient à Damas, au Caire, et qui étaient en haut d'une chaire et qui enseignait à un public mixte ou aux hommes. Vous voyez, donc des choses qui, lorsqu'on dit ça actuellement, ben les gens vous regardent, enfin, limite, ils ne vous croient pas.
Oui.
Alors, ça vient d'une part de l'ouverture très claire et très certaine du prophète et au principe féminin et à la femme, hein, je veux dire, en tant que telle, et donc à différents niveaux. Et là, dans le livre, je cite pas mal d'exemples en ce sens. Ouverture qui s'est fermée déjà, on le sait, avec le second calife, Omar, qui lui n'avait pas le même rapport du tout au féminin. Et puis après, de fait, au cours des siècles, il y a eu une lente dégradation de la place de la femme. Mais quand même, jusqu'au 15e siècle, hein, donc quand même une époque assez tardive, la femme savante, enseignait aux hommes, hein, souvent. Et une des épouses préférées du prophète, donc Aïcha, elle qui était veuve pendant longtemps, a enseigné pendant une quarantaine d'années aux hommes. Et les grands compagnons hommes venaient la trouver lorsqu'ils avaient un problème, en termes de sciences religieuses, en termes de, eh bien, ils venaient trouver Aïcha. Donc, vous voyez, il y a eu en effet cette présence de la femme dans la cité islamique et de la science religieuse islamique. Et pas uniquement soufie.
Ces trois siècles qui suivent la révélation, Éric Geoffroy, ce qui est intéressant, c'est que ce sont trois siècles de bouillonnement intellectuel, spirituel, scientifique. Bon, et là, la femme a une vraie place. Et on voit que lorsque le déclin de la femme s'amorce, eh bien, c'est aussi le déclin, en quelque sorte, de la civilisation musulmane qui s'amorce aussi en même temps.
Exactement, tout à fait. Et bien sûr, parce que comme une civilisation humaine peut-elle être optimale lorsqu'elle ampute la moitié de ses membres, voyez-vous. Donc ça c'est évident. Et on a des grands témoins tels que Averroès, le grand donc philosophe, mais aussi esprit religieux, donc Averroès, andalou justement, qui est mort en 1198 et qui déjà donc au XIIe siècle, il fait déjà le constat. Il constate que la place de la femme dans les sociétés musulmanes s'est considérablement donc dégradée. Il y a eu un lent phénomène donc de sclérose qui a donc produit finalement avec l'époque ottomane, mais sans remettre en cause les Ottomans, mais là bon, ça c'est une question d'histoire, et qui à partir des 16e, 17e, 18e siècle surtout, eh bien les gens vivent de plus en plus selon le poids de la coutume ou bien le poids de la société et du pouvoir politique et non plus en référence avec les fondamentaux de l'islam.
Éric Geoffroy, il y a des saintes dans le soufisme. C'est quoi une sainte dans le soufisme ?
Alors, c'est comme les saints, c'est-à-dire hommes, c'est-à-dire qu'en islam, il n'y a pas de canonisation, il n'y a pas de reconnaissance officielle, puisqu'il n'y a pas d'église, donc en islam. C'est la réputation donc de sainteté qui va se faire jour, parce que, alors miracle ou pas à l'époque, bon à l'époque il y avait soit des miracles, mais pas toujours, parce que il y a tout un exemple, il y a une autorité spirituelle qui d'emblée va apparaître, et pour citer donc la première grande sainte connue, Rabia El-Adawiya, qui est morte en 801, donc c'est très précoce, elle a eu un rôle très grand, elle avait un charisme spirituel et les grands esprits religieux donc de l'islam de l'époque venaient lui rendre visite pour tirer des leçons de vie, donc des leçons de vie spirituelles. Donc durant les premiers siècles, il y a beaucoup de saintes. Elle, c'est la plus connue. Quand vous parlez aux musulmans un petit peu comme ça, en général, ils vont dire « Ah oui, mais nous avons Rabia », mais il y a eu des milliers. Oui, il y a eu des milliers, sainte femme ou bien femme savante. Un universitaire en Angleterre a exhumé environ 10 000 femmes savantes de l'islam, en fait, au cours des siècles. Et donc, ces saintes musulmanes, là, pour rester dans le cadre de la sainteté du soufisme, eh bien, elles, durant les premiers siècles, en effet, où le monde soufi est très fluide, les gens voyagent, ils entendent parler de quelqu'un, ils vont voir un homme, une femme, etc. Elles ont un rôle, elles ont un ascendant très grand. Et on a, à ces époques précoces, des femmes qui sont déjà maîtres spirituels. Donc, le phénomène actuel, où on voit de plus en plus donc de femmes maîtres guides spirituels au sein de l'islam, au sein du soufisme, n'est pas nouveau. Simplement, et là pour parler donc un peu contemporain, c'est vrai qu'il y a un phénomène très clair où ces femmes actuellement sortent de plus en plus, elles sont de plus en plus nombreuses, les hommes les acceptent de plus en plus. Donc là, réellement, il y a un phénomène non pas nouveau, mais il y a une redécouverte du vécu musulman des premiers temps et du vécu soufi des premiers temps.
Et avec des femmes donc qui commencent à accéder à l'imamat, hein, je pense à Kaïna Bahloul, voilà, déjà, et Anne-Sophie Monchinet et Eva Janadin aussi, voilà, qui veulent ouvrir une mosquée mixte. Voilà, ces femmes sont effectivement ouvrent la voie à de nouvelles formes de pratiques en islam.
Et de fait, moi, je crois, pour faire de manière plus générale, je crois que le principe féminin doit être de plus en plus présent, et c'est ce qu'on constate déjà actuellement, dans ce monde où, en fait, c'est le principe masculin dévoyé qui, depuis la modernité de type européen, depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, technoscientisme, hégémonisme européen, colonialisme, etc., qui a donc été trop loin, et on voit la crise écologique, tout ça vient de ce masculin dévoyé. Et le principe féminin, actuellement, vient contrebalancer, vient rééquilibrer, sans ostraciser l'homme, bien sûr, parce que c'est pas ça ton, voilà, il faut qu'hommes et femmes se retrouvent, il faut que l'homme retrouve sa part féminine en lui, sur un plan au moins métaphysique, et la femme retrouve aussi, donc, l'aspect masculin en elle, pour pouvoir rééquilibrer ce monde qui part dans une hypertrophie, encore une fois, du mal, enfin, le mal, vous voyez, donc dominateur, hein, qui veut dominer la planète, domine les autres peuples, les autres continents, domine le ciel aussi, etc., etc. Donc on a tout un rééquilibrage qui on le voit qui est en train de se faire. On le voit dans le cadre islamique et soufi, mais on le voit également dans d'autres spiritualités.
Sans effectivement ouvrir une guerre entre les sexes, Éric Geoffroy.
Les femmes soufis que j'ai interviewées, enfin que je connais d'ailleurs, elles m'ont bien dit. Et c'est pas parce que l'homme a ostracisé souvent la femme pendant des siècles que la femme actuellement devrait faire de même avec les hommes. Parce que les hommes sont mal à l'aise finalement. Donc c'est plutôt une réharmonisation des rapports entre les sexes. Et en islam, ça se comprend, et de l'islam soufi en particulier, vers ce retour vers l'unicité. C'est-à-dire le principe du tawhid, c'est-à-dire le principe de l'unicité en islam qui est fondamental. C'est-à-dire il faut se réunifier intérieurement, homme-femme, voyez, pour revenir à la source de l'unicité qui est qui est en fait la source divine selon les mystiques musulmans.
Je vous remercie, Éric Geoffroy. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Allah au féminin, et qui est publié chez Albin Michel. Je vous remercie. Et c'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delru, Steven Esli vous donnent rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.
La marche du monde.